Monsieur quel est l'effet et la valeur du prière collective?
Nous avons déjà parlé de ça, des prières collectives, de l'emploi qu'on avait fait. Je pense même que ça parle dans le bulletin. Il y a d'ailleurs des genres différents de prières collectives, comme il y a des genres différents de collectivité. Il y a la masse anonyme, la foule qui s'est formée au hasard d'une circonstance sans coordination intérieure, poussée par la force d'une circonstance. Comme par exemple quand un souverain ou un personnage qui attire l'attention de la masse se trouve dans une situation critique, malade ou un accident. Et que la population s'est assemblée pour avoir des nouvelles et aussi pour exprimer son sentiment. Et c'est au hasard des circonstances que les individus sont assemblés là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien intérieur excepté celui de la même émotion ou du même intérêt. On a eu de ces exemples de foules qui spontanément se mettaient en prière pour obtenir la guérison de quelqu'un qui les intéressait tout particulièrement. Naturellement, ces mêmes foules peuvent s'assembler dans un but opposé, un but de haine, et leurs cris sont aussi une sorte de prière, mais de prière aux forces adverses et destructives. Ces mouvements-là sont des mouvements spontanés, pas organisés, inattendus. Il y a la collectivité d'un ensemble d'individus qui se sont groupés autour d'un idéal ou d'un enseignement ou d'une action qu'ils veulent accomplir et qui ont un lien organisateur entre eux, le lien du même but, de la même volonté et de la même foi. Ceux-là peuvent s'assembler d'une façon méthodique pour pratiquer en commun la prière ou la méditation. Et si leur but est élevé, leur organisation est bien faite, leur idéal est puissant, ces groupes peuvent avoir, par leur prière ou par leur méditation, un effet considérable sur les événements du monde, ou sur leur propre développement intérieur et sur leur progrès collectif. Ces groupes-là sont nécessairement très supérieurs aux autres. Mais ils n'ont pas cette aveugle puissance qu'ont les foules, l'action collective des foules. Elle remplace cette véhémence, cette intensité par la puissance d'une organisation voulue et consciente. Il y avait, de tout temps, il y a eu sur Terre des groupes qui s'organisaient comme ça. Quelques-uns ont eu une vie historique, une action historique dans le monde. Mais généralement, ils n'ont pas eu plus de succès avec la foule, la masse, que ne l'ont les individus exceptionnels. Ils ont été toujours suspects et soumis à des attaques, à des persécutions, et souvent aussi, ils ont été dissous d'une façon brutale et très obscure, très ignorante. Il y a eu de ces groupes semi-religieux, semi-chevaleresques, qui rassemblaient autour d'une croyance ou plutôt d'un credo. Avec un but défini. On tue une histoire très intéressante dans le monde. Et certainement, ils ont fait beaucoup pour le progrès collectif par leur effort individuel. Il y a une organisation idéale qui, si elle était menée à bien totalement, pourrait créer une sorte d'unité très puissante, composée d'éléments ayant tous le même but et la même volonté, et suffisamment développé intérieurement pour pouvoir donner un corps très cohérent à une unité intérieure de but, de mobile, d'aspiration et d'action. De tout temps, les centres initiatiques ont essayé cela d'une façon plus ou moins heureuse. Et toujours, il en est question dans toutes les traditions occultes comme un moyen d'action extrêmement puissant. Si l'unité collective pouvait arriver à la même cohésion qu'il y a dans une unité individuelle, elle multiplierait la puissance de l'action individuelle. D'habitude, si on met ensemble plusieurs individus, la valeur collective du groupe est très inférieure à la valeur individuelle de chacun pris en particulier. Mais avec une organisation suffisamment consciente, et coordonnée, on pourrait, au contraire, multiplier la puissance de l'action individuelle.